Shalom.
Salam. Vous devez dire ça.
Salut.
Salut, voilà, c'est ça, bravo. C'est ça.
Donc, bienvenue à tous dans cet épisode spécial Fête des Mères. Bon, on ne sait pas où est-ce que cet épisode va nous mener, mais bon, il a été demandé, donc on le fait. Donc on le fait. Donc là, on est avec nos chères mamans pour un épisode exceptionnel, là. En tout cas, on l'espère.
Exceptionnel,
Donc
historique,
nos mamans
pas
qui
quand
sont
même dire.
un peu stressées, on a dû se battre pour les convaincre.
Négocier fort, pour dire fort.
Mais pourquoi ce stress?
Non, ça va, pas si stressé que ça. Hein?
Ah.
Il suffit de, suffit d'être dans le bain. Une fois qu'on est dans le bain, ben voilà, on
Merci.
s'acclimate.
J'espère, j'espère, parce que
Donc
moi,
voilà,
je
donc
ne sais pas faire ça, donc c'est pas évident du tout pour moi.
ouais.
ouais. En plus, on n'est pas physiquement là, mais bon, ça va bien se
Ouais.
passer. De toute façon, on va parler de d'un sujet que vous maîtrisez bien, puisqu'on va parler de vos enfants.
C'est ça.
Donc, donc, voilà. Donc, on voulait proposer de faire en trois parties. D'abord, parler de l'enfance, peut-être, parce qu'en gros, on a eu pas mal de questions pour vous, des gens qui nous suivent. Donc, on va se faire les relais. Et puis après, on va parler un peu plus de actuellement, maintenant qu'on est entrepreneur, comment vous suivez ça de loin, etc., etc. Mais avant, puisqu'on dit spécial fête des mères, Moulay, est-ce que. Non, je vais demander à Tantine, est-ce que Moulay souhaite la fête des mères
Oh,
chaque
les questions pièges.
année?
Oui, il le fait. D'ailleurs, ça me surprend souvent parce qu'il n'a pas l'habitude d'appeler comme ça à peu près
Ça y est,
nouvelle, tu le connais.
ça attaque direct.
Ouais,
Oh,
mais là, il le fait. Fête de mère, là, il rate pas. Fête de mère, anniversaire, non, il rate pas. Il rate pas. Il le fait.
OK, anniversaire.
Est-ce que Caillou aussi à la hauteur? Parce que là, il se lance des fleurs.
Je pense que oui, hein, c'est quand même, on a cette chance-là, hein, d'avoir des enfants qui pensent à nous, on va dire, tous les jours, et plus spécialement à la fête de mère, quoi. Ça, c'est une réalité et c'est une joie.
Ah,
Voilà.
amen. On est correct. On commence bien, Caille. On ne s'affiche pas direct. C'est pas mal. C'est pas mal.
Mais pour être totalement honnête, je me souviens que avant elle disait toujours que ah, fête des mères et tout ça, elle n'est pas dedans et tout. Donc en fait, quand on était plus petit, on disait pas forcément. Et un jour, je me souviens, je lui ai dit et sa réponse, j'ai vu que ça lui avait fait trop plaisir. J'ai dit oh, mais c'est pas elle qui a dit que c'était rien et tout ça.
Ah bon?
Donc
C'est intéressant comme histoire, Davina. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous souvenez de la fameuse fois où il a sauté pour la première fois? Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que
ouais,
non?
mais déjà, je dois dire que dans ma nature, je ne suis pas trop célébrative. Hein? Je ne sais pas si le terme existe, que ce soit les anniversaires, Noël, bonne année, tout ça. Généralement, ce sont des jours comme des autres. Hein? Ça, c'est ma nature. Mais c'est vrai que quand on me surprend, hein, je suis toujours, disons, c'est un paradoxe. Hein? Je dis, ah ben, finalement, ça fait plaisir, quoi, c'est ça. Mais l'initiative vient de mes enfants, en tout cas, et de mon entourage. Hein, mais je ne suis pas trop dans la célébration. Mais il faut quand même reconnaître qu'en tant que maman, hein, et la tontine sera d'accord avec moi aussi, je crois, on doit quand même reconnaître que lorsqu'on est célébré, hein, c'est une forme de reconnaissance que nous apprécions.
Ça fait plaisir, c'est sûr.
Ouais.
Ça fait plaisir. Moi, j'ai eu de la chance parce que en fait, dans l'école où était Moulay, c'était l'école française. Donc, il faisait même des dessins, des petits dessins.
Oh Seigneur, c'est vrai que tu as gardé ça en plus. Je suis
Ouais,
tombé
j'ai
l'autre jour de
encore
la salle.
une enveloppe pleine de ces trucs-là. Donc, depuis tout petit, ils ont commencé à réaliser que c'est la fête des mères. Donc, ils font des petits dessins qu'ils amènent. Et puis, moi aussi, du coup, je suis un peu. Je célèbre beaucoup les anniversaires. Chaque anniversaire, je fais un dîner.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Ouais.
Chaque anniversaire, que ce soit eux deux et puis moi, leur père, en fait, je faisais toujours une petite fête à la maison.
Oui.
Donc, ils ont grandi avec ça. Et
Oui.
je pense que ça a beaucoup influencé Moulay parce qu'il n'est pas du genre à appeler comme ça là.
Souvent,
Ouais.
tu vois, comme le public peut le voir et vous le voyez, c'est le grief numéro un de ma mère avec moi.
Voilà.
C'est
Donc,
grief numéro un, c'est ça.
les anniversaires, ils ne ratent pas. Ça, il est toujours même le premier souvent pour mon anniversaire, m'appeler. Et maintenant, depuis que je suis à Abidjan, il me sort, il m'amène carrément à manger au resto. Donc, du coup, ce point-là, il est, oui, ça va, il tient bien.
On rattrape.
Comment ça?
Mais après, c'est vrai que, par exemple, moi, et puis, moi aussi, par exemple, on va pas, on fait pas pour nous, mais par exemple, va faire les anniversaires des autres, les fêtes, se mettre dans toutes les étapes pour ces trucs-là. Mais.
Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Je donne plus facilement que je reçois. Alors,
Ah,
les
mais.
anniversaires, bon, hein, mon papa, là, le patriarche, c'est 88 ans, on a fêté ça
Oh.
en grande pompe. Wow, oui, c'est ça. Mais l'avantage aussi de ne pas être trop proactif hein, par rapport à ses anniversaires à soi. Le bel avantage, c'est la surprise.
Ouais, c'est vrai.
C'est
C'est vrai.
vraiment la surprise. Moi, mais, ah maman, il faut qu'on se retrouve. J'en arrive parfois jusqu'à oublier ma date d'anniversaire. Et j'arrive, table bien apprêtée au resto, hein, mes enfants, des amis proches, joyeux anniversaire. Et c'est la surprise. Ça, c'est
Ouais,
vraiment.
ça fait plaisir, ouais. Ça fait plus plaisir quand c'est une surprise, oui, c'est vrai.
Et puis, il faut quand même reconnaître que ces événements-là aussi, quand on les célèbre, ça consolide les liens familiaux. C'est aussi un prétexte de retrouvailles familiales, hein?
Tout à fait,
C'est
tout
certain.
à fait.
Et moi, j'avais une question, une première question sur le fait que ça soit Moulay ou moi, c'est vrai qu'on a grandi une bonne partie de notre enfance en Afrique, mais en même temps, on allait souvent en Europe, ici et là. Je voulais savoir quelle est l'importance, selon vous, d'avoir fait en sorte que vos enfants grandissent en Afrique et pas forcément ailleurs. En fait, quel est le, en quoi vous êtes, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est ça. Bon, déjà, moi, je dois dire que par rapport à mon background de fonctionnaire international, j'avais vraiment les deux options. Parce que j'ai vu beaucoup de mes collègues, disons, scolariser leurs tout jeunes enfants à l'internat en Europe, hein, parce qu'ils privilégiaient plutôt ce qu'ils considéraient comme étant une qualité supérieure de l'enseignement. Mais de mon côté, moi, j'ai eu d'autres critères. Je me suis dit, à qualité de l'enseignement plus ou moins égale par le truchement des écoles consulaires, ce que je n'ai pas voulu sacrifier, c'est, disons, le lien affectif. Le lien affectif, disons, à nourrir chez l'enfant qui grandit, hein, un peu comme on arrose une plante, hein, parce que, à mon avis, et je crois que Tantine sera d'accord, disons qu'il y a des âges où l'enfant, disons, reçoit plus facilement, c'est comme une éponge qui prend de l'eau, les valeurs qu'on veut partager avec lui, la vision des parents, des principes, comment est-ce que, disons, on peut envisager son avenir, il ou elle, parce que c'est son affaire d'abord. Et je crois que ça demande une proximité physique, une cohabitation. C'est pour ça que tout de suite, j'ai pris l'option que mes enfants, dans leur bas âge, en tout cas jusqu'au bac, soient scolarisés en Afrique. Ça, c'est la première raison, le lien affectif et l'éducation, on va dire. Et la seconde, c'est que je me suis rendu compte que moi-même, ayant été envoyé en Europe dans la petite enfance depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai quand même quelques problèmes à retrouver mes marques quand je suis revenue en Afrique à l'âge adulte en termes d'intégration et tout ça, etc. Ouais. Alors, je dis que c'est vraiment, disons, ces racines, il faut vraiment les prendre dans la petite enfance. Hein. Et je me suis dit que le fait d'être en Afrique, bon, voilà, maintenant, mes enfants, ils ont dansé le Dombolo.
Ah bon? Est-ce qu'on a des vidéos de Kaï qui danse Dombolo? Moi, ça, je cherche.
Elle parle d'Amori. Elle parle d'Amori.
Amori. Amori. Hein? De Dombolo.
Moi, je suis l'enfant du Souglou.
Voilà.
Ah bon?
La cuisine africaine n'est pas commencée à hurler quand on prend un peu de pili-pili ou des choses comme ça. Hein, donc, la musique, la danse, la cuisine et je crois plus important encore, la connaissance de la famille élargie. Hein, parce que chez nous, la famille va au-delà de papa, maman, des frères et sœurs. Hein, on connaît tante et tout ça, etc. Et, tout. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup joué sur le fait qu'après leurs études supérieures, ils aient eu cette pulsion-là du retour sur le continent.
Et donc, toi, Tine, Bamako,
oui. À l'inverse d'elle, moi, j'ai vécu, je suis née au Mali, j'ai grandi au Mali, je me suis mariée au Mali, donc du coup, j'ai pas eu l'expérience qu'elle, elle a vécue. Étant petite déjà, elle était déjà en Europe. Moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours vécu à Bamako.
À Kaï, pour
être précis. À Kaï d'abord. T'étais... Je suis née là-bas.
Voilà.
Mais à Bamako, après mes études, je suis venue à Bamako. Je suis restée, je me suis mariée. En fait, je me suis mariée à Paris. Mais bon, ça c'est pas. Mais sauf que...
Parce que Moulay est né à Paris.
Oui. Il est né à Paris, on était installé à Paris quand il est né. Il est né un mois après, on est rentré. Mais avant, on était à Paris.
Ouais.
Donc, moi, les enfants, ce qui fait qu'ils ont eu les deux cultures, c'est parce que à Bamako, on est en famille, de toute façon. Il est né à Paris, mais un mois déjà, on est venu à Bamako.
Yep.
Donc, il a grandi à Bamako, dans le cercle familial, les traditions. Oui. C'était pas évident souvent. et surtout que moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que c'est pas un problème, mais c'est quelque chose quand même qui m'a un peu pris du temps, parce qu'ils étaient inscrits à l'école française.
Oui.
L'école française, c'est pas la même chose que les écoles maliennes. Donc, ils ont commencé à avoir les deux cultures. À la maison, on essayait de leur inculquer les coutumes maliennes, mais à l'école, c'était l'inverse. C'était l'école française, tout ce qui se passait en Europe, tout comme ça. Donc, ils ont été dans les deux cultures très tôt, quand même. Très tôt. Et puis, mon problème aussi, c'est que je n'arrivais pas à leur parler bambara.
Le grand problème.
Ça a été le grand problème quand ils étaient petits.
Ouais.
Je n'arrivais pas à leur parler bambara parce que j'étais enseignante.
Oui.
J'étais enseignante.
Maman est du côté pure de la lumière elle-même. Enseignante dans le public au Mali.
Voilà, j'étais enseignante à l'école malienne.
Dans quelle matière?
Musique.
Musique.
Ah, wow, c'est une artiste.
Elle voulait m'envoyer à la musique au lieu du foot.
Au lieu du foot. Ah, mais attends, voilà, ça c'est les vraies histoires.
Ah ouais, moi j'étais enseignante. Oui,
parce que je fais du piano dans.
Elle joue au piano.
Ah, super! Ça, c'est la galère de ma vie. J'ai enseigné la musique, mais au Mali, on n'avait pas d'instrument.
Il n'y avait pas d'accès.
On n'avait pas d'instrument, on avait le piano toute l'école. Donc, même pour s'exercer, quand on avait des évaluations, il fallait aller les dimanches à l'école ou les week-ends à l'école pour pouvoir s'entraîner un peu. Donc, on n'avait pas accès. Oui, on n'avait pas accès aux entraînements.
Même quand tu étais allé...
En quatrième année, j'ai fait mon thèse sur mon truc de fin d'études sur la koura qu'on venait d'apprendre.
Ah,
que Les profs maliens ont commencé à construire les instruments qu'on peut construire au Mali. Donc, la Koura faisait partie. Donc, j'ai joué la Koura une année. Je n'ai pas une formation instrumentale vraiment.
Pratique.
Vraiment. C'était vraiment théorique et le vocalise. C'est les bases de la musique. Donc, ça a été mon handicap. Darmoula, il voulait jouer il voulait faire du piano. Mais même moi, je ne savais pas jouer déjà. Et puis avoir un piano à Bamako à l'époque, c'était impossible.
On n'avait pas la place ni l'oseille, soyons clairs.
Voilà.
Pour résumer le.
Bref, pour revenir à l'éducation. Donc, ils ont eu les deux. Ils ont pu avoir les deux éducations. L'éducation qui consiste à intégrer les traditions du Mali. Et puis, les Français aussi, parce que. En plus, chaque année, pratiquement, on allait à Paris en vacances.
Ah oui, et ça, c'est un point important d'ailleurs que les gens... C'est vrai qu'on m'a fait remarquer, peut-être qu'on n'a pas expliqué, c'est que ce n'est pas des billets qu'on payait. Parce que les gens me posent la question des fois et je ne me rendais pas compte. Mais c'est vrai qu'on donne l'impression d'être... Tu sais, tu dis, tu as grandi au Mali, vous avez vécu au Mali, et en même temps, on dit chaque année, on va à Paris, ce qui est un coût.
Mais parce que mon mari était agent de voyage.
Voilà.
Il était agent de voyage.
Ah, d'accord.
Où ils travaillaient avec des compagnies.
Ouais. Et on avait les billets où on montait quand il y avait de la place.
Voilà.
Donc on venait, on se positionnait, on attendait. Puis il y avait des gens,
c'était pas évident. on a vécu ça.
C'était cool. Hein.
Oui. J'aimais bien. C'était ça.
Et le sujet de la double culture est vraiment intéressant parce que même nous, on voit souvent dans les questions qu'on reçoit. Des personnes qui disent oui, mais ta manière de t'exprimer ou la manière dont tu vas parler à l'investisseur, on sent bien que c'est parce que tu comprends comment eux ils réfléchissent. Nous, on n'a pas forcément à des personnes qui vont dire que voilà. Et donc, en gros, ils ne savent pas d'où ça vient, mais souvent, effectivement, moi je le vois dans mon domaine, puisque je propose souvent des choses à des entreprises internationales. Et donc, je comprends leur culture, je comprends ce qu'ils recherchent, etc. Et de l'autre côté, quand je travaille avec mes partenaires ou fournisseurs locaux, je comprends aussi. Donc, en gros, je pense que il n'y a pas eu de grande théorie, je pense, sur la double culture. On parle beaucoup des métis, etc., mais on ne parle pas du fait que, et quel que soit le cas, forcément, tu peux avoir, mais quand tu as la culture de deux continents différents, on va dire, sans le savoir, parfois tu développes une force intéressante dans ton domaine.
Oui, c'est ça. Oui. Mais je pense que c'est vraiment une source d'enrichissement, hein, de parcours de nos enfants. Hein, Moulay, qui était. Plus à Bamako, mais qui a eu cette opportunité de venir avec vous chaque fois à l'extérieur. D'ailleurs, il est né à Paris au départ, donc il retournait un peu à ses sources aussi, hein, chaque fois. Donc, je crois que c'est vraiment une source d'enrichissement. La même chose pour moi, les enfants sont nés pour la plupart en Europe, mais lorsque j'ai basculé dans ma carrière pratiquement pendant deux décennies, hein, comme fonctionnaire international en Afrique.
Ben, après, ça a été la remontada, c'était Abidjan, Kinshasa, Madagascar.
Represent!
Oui, c'est ça. On a fait un peu de tour, là.
On s'est rattrapé.
Vous avez voulu dans chacun des pays, du coup. Je savais que pour Kaye, du coup.
Oui, en plus, à Morip, du coup, puisqu'il est...
C'est-à-dire que Kaïd, lui, n'a fait que 4 ans, hein, parce que quand
Allô?
Je suis arrivé, il avait déjà ses 14 ans, donc jusqu'au bac. Mais ce que je voulais aussi ajouter, on reviendra peut-être à la question de la double culture. Je préfère double culture à métissage culturel.
Oui.
Dire que là où il y a des fratries, c'est quand même très important que des enfants restent dans la proximité, disons, de leurs parents, dans une forme de cohabitation. Parce que quand on les envoie, si par exemple, moi, j'avais fait le choix de l'internat en Europe, ils auraient été chacun de leur côté. Et ce qui est certain, c'est qu'après le bac, les enfants ont du mal à se
Oui, à
retrouver
faire des
entre eux
liens.
parce que chacun commence de son itinéraire d'avenir. Et donc, s'il faut créer des liens, qu'ils apprennent à se battre et à se réconcilier, c'est vraiment quand ils sont dans la proximité, d'apprendre à vivre ensemble, quoi.
Apprendre à se battre.
J'ai beaucoup aimé cette
Voilà, c'est
punchline.
ça,
Apprendre à se
ouais.
battre et se réconcilier. Elle a dit réconcilier aussi, c'est très important.
C'est vrai.
Mais moi, j'ignorais totalement ma sœur, donc c'était pas trop le problème. Toi, tu essaies de faire en sorte qu'on t'entende bien, mais bon.
Oui, les deux sont complètement différents. C'est fou, tu sais, qu'on peut faire deux enfants qui n'ont pas grand-chose en commun, mais c'était mon
Et
cas.
du coup,
Elle a dit pas une grosse
elle
raison comment tu me fais trop
C'est vrai. Je suis désolée, mais bon, je veux parler de
Invitera les frères et sœurs à un autre épisode.
C'est ça. On va inviter les frères et sœurs, idem d'épisode. Mais
Où est-ce
Asta se moquait, donc.
Asta ne veut même pas qu'on parle d'elle.
Est-ce que dans cette enfance, du coup, est-ce que vous direz qu'il y a quelque chose qui vous dit que, qui vous disait que, on pourrait être, qu'on serait entrepreneur? Ou alors vous n'y pensiez pas du tout?
Je ne sais pas, Caï, si tu es Tantine, Dai, si vous pouvez autoriser juste quelque chose que je voulais encore ajouter avant de
Bien sûr.
répondre à cette question par
Bien
rapport
sûr,
à
bien sûr.
la double
Culture. Oui, bien sûr, Davina.
culture.
Oui, vas-y.
Je me disais aussi que cette opportunité qu'on a eue de connaître des mondes divers au sud, en Afrique, au nord, en France, en Europe, je crois que ça donne aussi la possibilité d'essayer de tirer les meilleurs de ces plusieurs cultures, si je puis dire. Et depuis que je suis revenue, enfin, bon, c'est-à-dire dans la vie en tant que retraitée, hein, j'ai quand même, disons, connu des situations de plus grande proximité avec les gens sur le terrain.
Bien sûr.
Et je me suis rendu compte que vraiment, bon, c'est le cas en RDC, hein, mais peut-être dans beaucoup de pays en Afrique encore, qu'il y a beaucoup de fatalisme par rapport à certains dysfonctionnements, des actes de malgouvernance,
Bien
des
sûr.
actes, je veux dire, des manques de respect de certaines valeurs minimales, qui
Ouais.
étaient pourtant d'ailleurs respectées dans nos sociétés ancestrales, mais maintenant, surtout dans les zones urbaines. Donc, parfois, disons, un manque de respect mutuel, un manque d'intégrité morale et tout ça, etc. Hein, on va dire, par exemple, quand on se fait arnaquer, à la limite, on va dire, ah ben, il fallait faire attention. De toute façon, c'est normal que ça arrive, quoi. Une sorte de
Ouais.
fatalisme.
Non,
C'est
ouais.
là que je me dis que quand on porte certains standards très haut, dès par son éducation, dès par son ouverture sur le monde, on est armé pour ne pas baisser les bras face à
Ouais.
tout ça.
Ouais.
C'est un bagage. Et oui, c'est ça. Et à se dire, bon, écoutez, il y a un autre monde possible. On n'est pas condamné à ça, hein,
Ouais.
à la corruption, à la gabegie, à tout ce qui s'ensuit et tout ça. On peut essayer, même si c'est nager à contre-courant, d'essayer de se dire, non, non, moi j'ai reçu ça de par mon éducation et je ne vais pas y déroger par opportunisme parce que je peux obtenir un marché par-ci, par-là et tout ça. C'était juste ça, quoi.
Très important.
Ça commence à
Et
disparaître.
juste aussi, parenthèse aussi sur la double culture, insister que quand on parle double culture, nous, dans notre cas, effectivement, il y a l'Europe dans l'équation, mais par double culture, ça peut être, tu as la culture de la ville et la culture du village,
Bien sûr.
En ça peut
Afrique
être en
aussi.
Afrique,
Oui, en
ça
interne
peut
Afrique,
être.
ouais.
Voilà, exactement, mais c'est juste de se rendre compte et de l'opportunité qu'on a quand on est en dehors de son environnement originel et d'en faire le maximum pour en faire une force dans son parcours, quoi.
Tout à fait.
Amen.
Pour une petite parenthèse sur ce qu'elle vient de dire, je pense que vous avez beaucoup de chance quand même
Ah, ben ça.
de parcourir l'Afrique comme ça, parce que c'est différent, même dans les pays africains.
Rien à voir.
Oui, c'est ça.
Les coutumes, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, même en Afrique seulement. Donc, le fait que vous avez pu parcourir beaucoup de pays en Afrique, c'est une richesse, c'est quelque chose qui est très important.
Ouais.
Ça vous permet de faire le parallèle entre beaucoup de choses que les autres ne voient pas vraiment. Un vue d'œil comme ça.
Ouais, parce que moi, je n'ai pas beaucoup fait de pays africains avant de revenir.
C'est complètement différent.
Mmh, c'est vrai.
Et c'est une chance, vraiment une grande chance. Et que si vous arriviez à assumer tout ça, ça veut dire que vous avez quelque chose de c'est énorme, moi, je pense. Mmh, je crois que c'est très important, ça. Et que vous arrivez à faire la part des choses, ben, c'est très bien. Quand il y a beaucoup de chance. Hein.
Ah, c'est ça, mon gars.
Moula aussi.
Franchement, je ne comprends pas.
Si on revient
à Paris, on est bien.
On revient, le podcast s'appelle Entrepreneur State of Africa. On va parler d'entrepreneuriat.
Comme tu insistes. Donc,
est-ce qu'il y avait des signes ou alors peut-être une question marrante. Est-ce que vous avez un rapport à l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez déjà tenté l'entrepreneuriat?
Moi, non. Parce que je ne suis pas du genre, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Je suis un peu... Oui, c'est vrai que entreprendre quelque chose que je ne connais pas vraiment, ça m'a toujours fait peur.
Ouais, tu es prudente, toi.
Je ne suis pas du genre à tenter de nouvelles expériences, de voir où ça va me mener. Je suis très frileuse sur ce côté-là. Donc, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours été un peu compliqué. Compliqué. Surtout que son père était entrepreneur aussi. Hein. Il avait une agence de voyage. C'était pas tout le temps la rose.
Tu as vu l'envers du décor, toi.
Voilà.
Tu as vu les vrais.
Ouais. Et Moulay, j'ai jamais pensé qu'il allait faire ça.
Yep.
Vraiment. Parce que avec Moulay, j'ai eu un problème. Non, c'est pas un problème. Sauf que avec lui, c'est difficile souvent. Ça, depuis qu'il est petit, c'est difficile de savoir ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il n'a pas envie de faire. Quand il était à l'école, au moment de choisir, quand il était au lycée, au moment de choisir l'option.
Ah, tu parles de quand il choisir S, E,
voilà.
L. Ouais.
C'était moi. J'ai pas pu on n'a pas pu lui dire faire ça parce que peut-être que je suis une mère, mais il a toujours été brillant dans les deux côtés. En français, littérature et sciences, il était bon dans les deux.
Non, j'étais nul en maths jusqu'au CE1 quand tu as passé les vacances de Pâques.
Oui.
À m'apprendre les maths alors que tu es nul en maths.
Je connais rien. Bon, il était toujours plus intelligent que moi, de toute façon.
Oh, c'est ça.
Donc, bref, arrivé de choisir, c'était compliqué parce qu'il était bon dans les deux. Donc, on l'a laissé. On lui a dit, bon.
Enfin, tu m'as laissé. Hein. Papa n'était pas exactement... Il voulait S until I die. Et Dieu merci, c'est tonti Michel qui m'a aidé.
Oui, j'avais une amie qui était prof au lycée. Une amie française.
Qui était prof, au, lycée
prof au lycée français aussi. Donc, et puis, je suis enseignante. Il y a des choses que je comprends tout de suite. Pas forcément que quelqu'un qui ne connaît pas l'enseignement. Et puis, comme je savais qu'il pouvait se débrouiller dans les deux cas, je lui dis, bon, écoute, choisis ce que tu veux, ce que tu penses que tu veux faire, choisis ça. Et il a choisi. Donc, à partir de là, j'ai compris que ce garçon, je ne peux pas le diriger pour faire quoi que ce soit. Je le laisse le faire et je vais suivre le rythme. Donc, quand il a choisi de faire ce truc-là, j'étais très inquiète. J'ai flippé carrément. Parce que quand...
Ce truc-là, tu peux donner le nom quand même maintenant.
Quand il a choisi de lâcher tout pour faire créer Africria,
ça va. Merci.
Et je vous dis, j'ai passé quelques nuits à réfléchir là-dessus.
Ah, ça.
Je ne savais même pas comment faire pour le faire renoncer. Parce que je me dis, je ne vois pas qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il renonce à faire ça. Je lui ai donné mon avis quand même. Et j'étais très inquiète. Parce qu'il avait un bon boulot.
J'aimais bien. Elle, son argument, c'était, mais t'aimes bien ton boulot.
Voilà.
Tu aimes voyager.
Et c'est jamais plein.
Non, franchement, j'aimais bien mon boulot, je te confirme.
Donc, ça m'a vraiment...
Costard avec une cravate.
Oui.
Dans les grands hôtels, tout ça. Elle ne comprenait pas. Tu sais, dit, mais c'est quelle affaire, ça.
Et on voit tout le temps. Et puis, ce qui m'a vraiment choquée, c'est que Moulay ne s'est jamais intéressé à l'art.
Jamais.
À Bamako, déjà, pour le faire porter un bazin, c'était pas
très
évident.
Très compliqué.
Il voulait pas les tenues africaines, il voulait pas.
Mais c'était flingué aussi, ce qu'on vous
montrait. C'était pas facile. Donc, du coup, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Depuis quand tu t'intéresses à l'art africain? Parce que j'ai remarqué, il mettait des trucs au bracelet en perles là. Et puis il me demandait de lui acheter ça à Bamako. Je lui en achetais. Mais je pense que c'était le côté de... Il est maintenant en Europe, il veut avoir un côté africain. Mais donc, ça m'a fait un choc quand il m'a dit que c'était ce qu'il voulait faire. Je lui ai dit, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu veux tout lâcher pour faire quelque chose qui n'est vraiment... Il n'y a pas de...
Je vois même pas. Pas moi, c'est ça que je voulais dire. Elle, c'était en mode, mais... C'est même pas quelque chose que toi, tu as toujours aimé. C'est voilà, pas quelque chose que...
Voilà, tu n'as jamais manifesté quoi que ce soit pour l'art africain. Et puis tout d'un coup, tu veux lâcher ton boulot que tu aimes faire et tout ça. J'étais un peu désorientée. J'étais un peu désorientée. Ça m'a beaucoup perturbée, vraiment. Mmh. Ça m'a perturbée parce que j'étais seule à vous. Déjà, sur l'éducation, j'étais pratiquement... J'étais pas seule, mais bon, la majeure partie, j'ai assumé. Mmh. Mais à l'époque, puis je faisais ce changement, je venais de divorcer en plus.
Ah oui, c'est vrai. Merde.
Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a empêché de dormir pendant des nuits parce que j'étais dans une situation déjà pas facile.
Ouais, pour tout le monde. À l'époque, c'était compliqué pour tout le monde.
Voilà.
Et j'étais et le
là,
seul qui était.
Il a choisi ce moment-là pour changer carrément.
Ouais.
J'étais... Et vous voyez le tableau. Donc, c'était pas évident. Et ben voilà, après je me suis dit, ben, ce garçon il s'est toujours débrouillé, il a toujours jugé les choses, et puis c'est un grand optimiste, ça quelque chose que j'ai, contrairement à moi, mon lait, quelle que soit la situation, il voit le bon côté, donc c'était une chance, je me dis, il va s'en sortir, parce qu'il a toujours fait
le bon choix. C'est l'un des... Le meilleur dans le game, c'est lui qui domine le monde.
Ce qui m'a fait, ça m'a un peu rassuré. Sinon, l'entrepreneur, moi, ça m'a pas plu tout de suite. Hein.
Ouais, non, mais je sais qu'en plus, tu m'avais dit, même maintenant, elle me rappelle que elle voyait, par exemple, l'entrepreneuriat, c'était se frapper beaucoup les conseils d'administration de papa. Tu disais que dès qu'il y avait un conseil d'administration, c'était un moment difficile pour tout le monde. Donc, maman, elle a l'entrepreneuriat, elle a vu l'envers. Fort.
Et c'est quelque chose qui, au départ, on ne sait pas vraiment comment ça va tourner. Mm. Ce n'est pas comme si tu vas, je suis une enseignante, je vais en classe, je m'en vais, paf, c'est fini, je suis un monsieur. Ce n'est pas ça. Tu te lances dans quelque chose qui est inconnu. Que tu ne maîtrises pas tout de suite, surtout l'art.
Je fais de l'e-commerce, maman, pas de l'art. Je faisais
avec des artistes.
Ouais, genre, c'était moi en train de faire les sculptures.
Non,
tu ne fais pas, David, elle va croire que soudainement je me suis jeté.
Non, c'est pas ça. C'est juste que l'entrepreneur, ça me paraît quelque chose de vraiment. Je ne voyais pas comment ça va marcher pour lui et où est-ce qu'il va aller. Je sais qu'il va rencontrer des difficultés. Et comme je ne suis pas du genre à m'aventurer sur des terrains inconnus, c'est ça qui m'a fait que j'ai un peu flippé. Mais quand je me suis rappelé qu'il est un garçon qui est quand même sensé et optimiste, j'ai dit, il va s'en sortir. Et bien voilà.
Amina,
je ne sais pas si c'est pour vous, ça a été pareil avec Kaï.
Ah, c'est ça, Fred Davina, il faut nous dire maintenant, le peuple veut savoir.
Non, mais ce que je viens d'écouter là, je relève déjà quand même des convergences de situations. Parce que bon, c'est la maladie du siècle, moi aussi je me suis retrouvée divorcée. Donc c'est vrai qu'à un certain moment j'étais... plus ou moins dans une situation comme monoparentale par rapport à l'éducation, les décisions, je veux dire, oui, de papa, il participait, mais je veux dire, c'est toujours plus problématique quand on n'est pas ensemble, surtout quand il y a des divergences de point de vue sur les trajectoires que veulent les enfants. Y a ça, et puis ensuite, c'est vrai que le background personnel parfois est un frein à laisser comme ça émerger les desiderata des enfants par rapport à l'avenir qu'ils veulent se faire.
On m'a empêché d'être footballeur.
Oh, ça va, ne pleure pas mon frère, c'est une meilleure carrière que tu as.
Maintenant elle voit les salaires d'Mbappé, elle pleure.
Ah oui, ça, c'est vrai. Hein, si j'avais su quand même.
Tu savais
mais
que
comme,
tu savais
que le football s'appelait. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Hein, donc,
ils sont élus, exactement.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, j'ai un principe. Moi, je t'ai coupé, j'essaie d'éviter les regrets et de regarder vers l'avenir.
Ouais.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi, comme j'ai évolué dans un domaine professionnel, en fait, pour être plus précise, j'ai été directrice du Bureau international du travail dans plusieurs sous-régions, plusieurs groupes de pays et même au niveau régional de l'Afrique. J'ai été directrice régionale adjointe du BIT, okay. Eh bien, justement, c'est une institution qui se préoccupe beaucoup de ce qu'on peut qualifier de l'emploi décent, de la sécurité de l'emploi.
Et de l'emploi. Ouais, bien sûr.
Et moi-même, d'une manière ou d'une autre, je peux dire que j'ai été privilégiée d'évoluer dans une structure onusienne où tu as quand même ta la garantie de revenus, des considérations qui touchent, parce que lorsque nos enfants bifurquent dans des statuts indépendants, nous nous posons la question du revenu, mais dans mon cas particulier, vu mon domaine professionnel, c'est celle aussi de leur sécurité sociale.
C'était toujours ça.
Qu'est-ce qui arrive?
Sérieux?
Est-ce que tu tombes malade?
C'est toujours ça. C'était la seule question. Est-ce que tu as une mutuelle? Quoi que je fasse,
c'est... est-ce que tu as une mutuelle? Mais ça, c'est les vraies questions.
Mais c'est vrai, c'est important. C'est important.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive dans... Et d'ailleurs, la question est toujours d'actualité. Après une vie de travail, quand on ne peut plus travailler, qu'est-ce qui arrive par rapport à la pension, etc. Donc, ce sont des considérations, en fait... qui m'ont, disons, hanté au moment où Kayi a justement, un peu dans la même trajectoire que Moulay, a eu, a posteriori, je qualifie ça de courage, de suivre, disons, son ambition, sa passion. Hein, parce qu'en réalité, il était aussi, disons, dans ce qu'on peut qualifier des zones de confort, avec un poste chez General Electric à Londres. Ensuite, sur Paris, il a travaillé pour une grande compagnie de procurement, enfin, on a achat, et puis avec Suez et tout ça, etc. Donc, il était quand même dans des zones de confort avec... la garantie d'un salaire et tout ce qui s'ensuit. Et donc, je dois dire que je suis passée un peu par les mêmes questionnements, les mêmes inquiétudes au moment où...
Par contre, elle m'a jamais dit ça, parenthèse.
Ah bon? Elle t'a pas dit qu'elle était inquiète?
Oui, parce que je me suis dit, en fait, que... qu'être parent, c'est d'abord d'accompagner. Et je me suis dit, à partir du moment où cette volonté qui avait commencé, bon, ça n'a pas été brusque, il en parlait pendant un certain... Et puis, à un certain moment, c'est devenu comme quelque chose d'irréversible. Et à ce moment-là, je me dis, ça ne sert à rien, disons, de s'obstiner à courir derrière un train qui a démarré.
Il faut essayer
de sauter dedans et de l'accompagner, quoi. Et tout ça, au début, c'est vrai que c'est pas très clair parce que la destination, c'est quoi?
Comme elle a dit, le chemin.
Voilà. Nos jeunes démarrent parfois avec très peu de moyens, quasi rien parfois. Et donc, tout ça, ça a été, disons, des interrogations. Mais je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'était aussi les conseils de proches. Parce que, on va dire qu'au niveau paternel, c'est plus « Ah, mais oui, mais attention, c'est des risques et tout ça. » Mais beaucoup de proches qui aiment, parce que c'est une question d'amour, je crois, avant tout. De dire, bon, attends, OK, je vais accepter de partager ce risque-là avec toi et on verra bien. Parce qu'on se dit bien que rien n'est acquis d'avance. Mais à mon avis, disons que les acquis qui ont joué, C'est parce que, comme ça, a posteriori, bon, Kai pourra peut-être réagir, Mondaï aussi, je me suis dit que la clé de la réussite, ça n'a pas été nécessairement la recherche du confort matériel, de la richesse, de l'enrichissement, même si c'est quand même très important. Au moment où ils prennent ces décisions-là, on se dit, oulala, on espère qu'ils ne vont pas retomber à notre charge après être partis.
Les vrais problèmes, c'est merci, c'est la vérité. C'est ça.
Mais oui, j'ai dit, ah non, c'est là, bosser là.
Ah non, c'est bon, on ne va pas se remettre dans les problèmes. Non, mais elle a raison. Non, mais c'est un vrai point, parce qu'en plus, maman l'a dit un peu.
Plus de cette considération-là matérielle, moi, je pense que ce qui a joué, c'est, disons, la passion, l'ambition, la conviction de vraiment de dire qu'on va mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir réussir dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui a joué et je dois dire aujourd'hui que vraiment, Kai, m'a vraiment fait comprendre que bon, les enfants, c'est vrai, viennent de nous, mais il y a toute une part. Donc, on peut peut-être maîtriser leur acquis à travers l'éducation qu'on leur donne. Mais j'ai découvert plein de choses, en fait, qui étaient innées dans Kai et que moi-même, je n'avais pas parlé du doigt.
Ouais. Hein? Oui, c'est... Le peuple veut savoir. Là, on parle dans les choses très intéressantes, Davina. Là, on est bien. Là, on est dans les choses intéressantes.
Mais je vois, par exemple, disons, là où, par exemple, moi, je suis plutôt de nature, je veux dire, plutôt empressée d'avoir des résultats. Dès que je démarre quelque chose, je vise très vite le résultat. Mais je vois que Kai, et je suppose que Monda, ça a été la même démarche, je ne sais pas, a vraiment posé des jalons sur la trajectoire de son objectif. Hein? Et on le voit, et ça se reflète même dans la progression de son chiffre d'affaires aussi. Il part tout petit et tout ça, etc. Mais je crois que ce qui a sauvé la mise, c'est qu'il avait une vision, un objectif à long terme, et qu'il avait déjà fixé des étapes pour y parvenir. Et qu'il s'est vraiment comporté en ce qu'on appelle la force tranquille. Sans précipitation.
Ça se dit non.
Ouais.
Voilà, sans précipitation. Donc, pas comme sa mère. Donc, maintenant, voilà. Donc, pour moi, finalement, ça m'a bénéficié aussi. Ça a bénéficié aux membres de son entourage. Je veux dire, dans le sens de savoir qu'est-ce que c'est le monde du digital, c'est quoi le numérique, c'est quoi les influenceurs et tout ça, etc. Toutes ces choses que je ne connaissais pas.
David, elle maîtrise. Hein. Moi, je vois que je n'ai pas formé aussi bien ma mère.
Elle gère. Elle connaît les
formats. Oui, j'ai connu travers... À travers Kai et tous les grands événements qu'il organise à l'ICOM. Mais disons que pour conclure sur ça, je pense que pour moi, le meilleur indicateur, parce que bon, d'ailleurs, comme lui, je suis économiste, il a fait les approvisionnements, donc procurement, les achats. Mais je pense que parmi les atouts qu'il a mis de côté, et je crois que ça, il faut vraiment répéter à nos jeunes aujourd'hui, c'est que le diplôme académique universitaire ne t'enferme pas dans une case. C'est une des leçons que j'ai tirées des itinéraires de Moulay et de Kai.
C'est vrai.
Il te donne, disons, des atouts qui ne sont pas des atouts... De mémoire de ce que tu as appris, mais de ta manière de réfléchir, de raisonner, d'analyser, de soupeser les risques, de les prendre ou pas, et tout ça, etc. Et donc, quelque chose qui te permet de te redéployer dans d'autres domaines, quels qu'ils soient.
Bien sûr. Hein,
et d'avoir le courage d'aller vers de nouvelles formations, c'est ce que lui a fait, parce qu'il abordait aussi un monde qui, techniquement, n'était pas des siens. Donc, oui. Il est retourné se former. Donc, moi, je pense que c'est vraiment tous ses atouts. Et parmi les indicateurs que je peux considérer qui peuvent nous rassurer, pour ce qui est de CAI, on parle d'ici de 10 ans après. Mmh. Et l'indicateur, je ne sais pas où est-ce que Mouda il en est, mais de fonder une famille.
Ah, Seigneur.
De fonder une famille, hein, parce que...
Les problèmes, là, c'est... Là, on rentre dans les zones ombrageuses, c'est bien.
Oui, mais je dis que généralement, la plupart des hommes autour de moi, des jeunes, mm-hmm. quand je leur parle de fonder une famille, ils disent « Oui, mais je ne me sens pas prêt, mm-hmm. Il faut que je me sente un peu plus stable. » Quand parfois, ils sont déjà engagés sentimentalement. Mm-hmm. Mais c'est à franchir le pas concrètement parce qu'ils se disent que ça va être des responsabilités.
Bon, ça, c'est un autre thème encore.
Oui, mais c'est ça.
Mais c'est un thème important. Madame Amina tape sur les vrais sujets. Moi, j'aime beaucoup.
Moi, parce que moi, je suis opposée à l'idée du chef de famille qui assume tout. Je dis toujours que c'est le mariage, le couple, c'est un partenariat. Où on se partage les responsabilités. Donc, on va avoir un partenaire qui va aussi venir avec ses apports. Mais c'est quand même des responsabilités, surtout s'il y a des enfants qui viennent. Et nos enfants qui ont reçu le meilleur qu'on pouvait leur donner veulent aussi, parce que c'est intergénérationnel. Moi, mon père m'a donné, je donne à Caï, à ses frères et sœurs. Mais lui aussi, il veut répliquer. Je crois qu'il veut répliquer et donner la même qualité. Hein, à ses enfants. Et ça a un coût. Alors, je dis qu'une fois qu'on franchit le pas, et je crois que Caï l'a franchi il y a peu, je me dis peut-être, alors voilà, il a gagné en confiance en lui-même, en confiance en ce qu'il fait est en train de marcher. Hein, malgré les zones de risque qu'il manque. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça.
C'est très important. C'est vrai que.
Voilà. Que le risque était là, mais qu'il a été maîtrisé et que des bonnes choses en sont sorties, quoi. Des bonnes choses en sont sorties.
C'est très intéressant. Non, c'est vrai, c'est intéressant parce que c'est effectivement des choses qui parfois sont dans la tête de l'entrepreneur, mais qui sont difficiles à exprimer.
Clairement.
C'est-à-dire quand quelqu'un dit oui, je suis pas prêt, etc. En fait, il ne s'est pas vraiment expliqué pourquoi. Et de la même manière, il ne s'est pas forcément expliqué pourquoi à ce moment-là, il se sent prêt. Mais c'est effectivement parfois, il a plus d'assurance sur ce qu'il est en train de construire, qui fait qu'il a le sentiment que même s'il n'est pas sur son business 7 jours sur 7, H24, le truc tient toujours. C'est ce qui permet... Mais d'ailleurs, de toute façon, je voyais un truc, Jo, qui disait, quand tu commences, c'est vraiment la différence, on en parle souvent avec là, entre salarié, la personne aussi qui est indépendante, et puis après, l'entrepreneur. Le salarié se rapproche de l'indépendant. Le salarié, c'est juste qu'il a un patron, l'indépendant est full-time sur son truc, mais il est vraiment... dédié à ses clients, mais l'entrepreneur, normalement, il est à un stade où il a créé quelque chose qui fonctionne tout seul. Et beaucoup, en fait, n'arrivent pas forcément à ce stade. Donc, ils ont l'impression, effectivement, d'avancer, de faire quelque chose de grand, mais en fait, ils se retrouvent, tout comme certains salariés, de ce qu'on appelle la rat race. Métro boulot dodo aussi. Donc, en fait, c'est comment tu arrives à effectivement te stabiliser pour que ce que tu as construit fonctionne tout seul. Et que... Puis, mais je comprends que de l'extérieur, ça rassure quand. Parce que, par exemple, ma mère, elle est toujours, chaque fois, si on parle en semaine, elle dit ah non, mais là, tu dois sûrement avoir un client qui. Elle veut toujours couper. Je dis mais non, c'est bon. Voilà, parce que j'ai dit, en fait, c'est lui faire comprendre qu'il y a quand même une évolution. Il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc le truc,
tout ne repose pas sur toi. C'est ça qu'il faut qu'elle
voit. Mais toujours, ah non, il faut
il faut que tu... Là, je suis à Kinshasa, rentre vite à Abidjan, parce que comment tu vas faire là-bas?
Allez, bien, mais c'est ce qu'il faut.
Tu vois? Donc, c'est toujours ça, ouais. Mais OK.
Non, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que ce que tu viens de dire, Kaï, juste pour l'entrepreneur qui nous écoute, je sais que ce que moi, je retire, ce que Tata Davina nous a dit, qui est quand même important, c'est je pense qu'on ne se rend pas forcément compte que comme nos mères et nos entourages, de manière générale, veulent notre bonheur, ils s'inquiètent sur le fait que même si on réussit, ce sera au détriment de notre bonheur. Et c'est vrai que nous, quand on ne parle que de la survie, de la boîte, etc. Et c'est vrai que fonder une famille est un indicateur important que beaucoup d'entrepreneurs prennent comme étant de l'égoïsme des parents. Parfois, en se disant, ils veulent juste que tu remplisses une case, qu'ils puissent dire à tout le monde, ça y est, il est marié, qu'ils puissent dire, il a tel enfant, nanana. Mais en fait, là, comme c'est dit, je comprends qu'en fait, oui, il y a aussi juste, vous vous dites, OK, s'il réussit à faire ça, c'est que sa boîte est quand même assez solide pour soutenir une responsabilité supplémentaire. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais pensé à ça, très honnêtement. C'est nouveau pour moi d'entendre ça, effectivement. Donc, merci beaucoup. Je pense que beaucoup de gens doivent y penser. Hein. Je pense que moi, en tout cas, je ne le voyais pas comme ça et je le voyais beaucoup comme étant, bon, ben, il faut que je rentre dans les cases de la société. Alors qu'en fait, non, c'est juste pour même mon propre intérêt personnel, c'est bien de pouvoir montrer que je peux avoir une vie de famille sans que tout parte en sucette ou que j'ai peur.
Moi, je pense que les deux là, ils n'ont pas tout de suite suivi le rythme normal. J'ai fini de l'école, j'ai commencé à travailler, je m'installe. Parce que eux, ils ont commencé à faire quelque chose d'abord, un travail. Quand ils ont fini les études, ils ont commencé à travailler. Et puis, ils ont fait quelques années dans ça. Donc, au moment où moi, je pense qu'ils devaient penser à s'installer, c'est là qu'ils ont tout lâché pour entreprendre.
Oui, c'est ça, absolument.
Voilà. Voilà, il leur faut un peu de temps encore pour pouvoir s'affirmer, s'installer, avoir confiance et puis après, fonder une famille. Donc, ce qui fait qu'ils ont été un peu en retard par rapport aux autres. Parce que,
surtout moi.
Voilà, c'est le circuit qu'ils ont suivi, ça fait qu'ils ont été obligés d'attendre plus longtemps que quelqu'un qui a suivi le circuit normal. Donc, mais sauf que, arrivé à un certain moment, on a besoin, dans le cadre familial, d'avoir un support, d'avoir quelqu'un avec... On n'est pas tout le temps avec les mamans, les sœurs. Ils sont tout le temps seuls. Quand ils ont commencé, d'ailleurs, ils étaient pratiquement seuls, ou à deux ou trois. Donc, après, il faut avoir quelqu'un avec qui échanger et se reposer un peu sans pouvoir penser au travail ou à la famille, un cadre familial propre à eux. À partir de là, je pense que ça va les aider à avancer sereinement dans beaucoup de domaines. C'est qu'ils ont ils auront des problèmes de couple aussi, hein, bien sûr, ça va ensemble. Mais ça va ensemble. Mais quelque part, c'est un atout qu'il faut qu'ils arrivent à faire ça.
C'est important.
Ça, c'est sûr.
Non, c'est sûr. Et transition sur une question que David a évoquée un peu, mais peut-être juste vous demander spécifiquement, est-ce que maintenant vous voyez une différence entre quand on a commencé en termes de travail et maintenant? Parce que je sais que maman, toi, tu étais toujours très inquiète, tu étais tout le temps avec mon ordi en train de bosser tout le temps. Mais est-ce que maintenant vous voyez une différence? Et je pense que ça représente un peu ce que Kaï décrivait. En fait, il y a différentes saisons dans la vie entrepreneuriale. Et quand on progresse, normalement, l'entourage doit commencer à sentir qu'on est un peu plus serein, un peu plus disponible, un peu moins stressé. Mais est-ce que vous le voyez? Parce que moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus détendu. Est-ce que toi, tu le vois? Ça, je ne sais pas, parce que j'avoue, moi, j'ai l'impression des fois que non.
Mais oui, mais si. Il y a une grande différence. Une grande différence. Quand tu as commencé, en fait, déjà, tu n'as jamais été quelqu'un qui appelait beaucoup, comme d'habitude, je le dis chaque fois.
Ouais, c'est le point principal, encore une fois.
Mais quand ils ont commencé, mais c'était tellement... ils étaient en mode camping, tu sais, ils étaient coupés du monde, carrément, coupés du monde, tous les deux, ils étaient installés à Lille.
Ouais, avec Kader, ouais.
Quand ils voyaient personne.
Dans notre camp, dans notre exil.
Et pour le voir, j'allais à Lille souvent, parce que j'étais à Paris à l'époque. Mais j'allais à Lille pour le voir, pour pouvoir être avec lui. Je voyais, il était stressé, il avait trop de boulot. D'ailleurs, sa santé, je m'inquiétais beaucoup pour sa santé à l'époque. Parce qu'il faisait rien d'autre que bosser. Il ne sortait pas, il ne faisait rien. C'était inquiétant pour moi. En même temps, je n'ai pas osé dire tout ça parce que je ne voulais pas rajouter.
Oh, ça va, tu l'as dit quand même.
Je l'ai dit quelques fois, mais si je m'étais écoutée, je t'aurais carrément harcelé.
Oui, non, mais non, ouais, non. Toi, tu es une harceleuse dans l'art.
Voilà.
Ça, c'est
naturellement,
une de nos grandes différences. Voilà, elle harcèle, elle ne lâche pas. Elle
je ne lâche rien quand ça les concerne. Je continue à les harceler. Je me fais souvent...
renvoyer.
Ouais, mais je m'en fiche. Mais je continue quand même. Donc, bref, au début, c'était vraiment difficile. Mais au fur et à mesure, à partir du moment où Moulay, ils ont commencé à avoir beaucoup de... je ne sais pas, comment on appelle ça?
Des employés.
Et puis, à partir du moment où il est venu à Abidjan, là, ça a fait une grande différence. J'ai vu vraiment la différence. Il était plus disponible, plus serein. Il discutait des choses avec moi qu'avant, il n'avait pas le temps. C'était vraiment une perte de temps pour lui. Mais j'ai vu la différence. J'ai vu la différence déjà sur le plan mental, parce qu'il était plus stable, plus serein. Et puis même sur le plan financier, beaucoup de choses ont changé.
Ouais, c'est là que je pensais gagner de l'argent, c'est très important. Ouais. Voilà. C'était la dèche.
Et moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était est-ce que tu aurais pris ta vie en main? Est-ce que tu as commencé à prendre soin de toi-même? Parce que l'épisode de Lille, ça a été très traumatisant pour moi et pour lui aussi. Il ne me disait pas, mais moi, je voyais sur lui physiquement. Donc, quand il est venu à Abidjan, j'ai vu un changement. Il s'est repris en main. Il était plus communicatif, mais avec sa sœur, avec moi. Et il voyait d'autres personnes qui n'est pas forcément... voilà. Et j'ai vu la différence, vraiment. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Et au fil du temps, j'étais complètement épatée par ce qu'il fait. Je suis complètement épatée par ce qu'il fait. Et quand j'ai commencé à suivre leur podcast, là, j'ai appris des choses sur lui que je ne connaissais pas.
Oui, ça, c'est important. Elle aime bien dire ça, ouais.
C'est vrai.
Elle ne savait pas ce que je faisais de mes journées, qui j'étais.
Voilà. Je savais vaguement c'était quoi. Mais le podcast, j'ai réalisé qu'il fait des choses incroyables. Tous les deux, j'ai dit, mais ça, c'est quelque chose que vous êtes en train d'accomplir, des choses que je n'avais pas imaginé que tu aurais pu faire. Mais donc, j'étais vraiment contente et rassurée vraiment sur son parcours, c'est ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est, où est-ce qu'il veut aller. Il a une vision très, très claire de ce qu'il veut faire et ce qu'il est en train de faire maintenant. Vraiment, ça m'a rassurée et ça me fait plaisir. Je suis épanouie par rapport à ça, vraiment. Et c'est très important pour moi parce que je n'ai que les deux là. Et lui, il a toujours été quelqu'un de très stable, très responsable.
C'est ça.
Très responsable. Ah, ouais. Moi, je crois que c'est le plus grand truc que j'ai tout su chez lui. Il est responsable. Quand il veut faire quelque chose, il le fait. Et il s'implique. Et j'ai vu que dans son boulot, c'est le cas. Et ça me... Voilà, je suis contente.
Amina, vraiment, c'est bien.
Et j'espère bien que ça va continuer comme ça, vraiment.
Je découvre des choses avec tout le monde, vraiment. C'est ça. Faut croiser les doigts, Tata, vraiment.
Mais... Ah non, il ne faut pas s'applaudir soi-même, là.
Je croise les doigts, juste.
On va juste... Moulay, une petite transition technique. On va se rapprocher de la prise parce que l'ordinateur est...
Allez, les aléas du direct, voilà, ça tombe bien, que les gens voient. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pas mal. T'inquiète, maman aussi. Elle est... ouais. Petite. Tout le monde profite de la petite pause technique.
Mais c'est un.
Non, attends, Davina, c'est à toi de nous en dire plus sur. Est-ce que tu vois la différence avec AI maintenant aussi? Est-ce que le peuple. Ouais, c'est bon. Franchement, vous êtes bien éclairé, pas de contre-jour, on est bien.
Oui. Ben, je voulais rebondir là sur ce que la Tantine a dit à la fin. On entend rarement des éloges d'une maman de son fils, parce qu'on dit toujours les éloges, il faut mettre un bémol dessus, disons plutôt dire il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses plus, ouais. Hein. Voilà, donc ce qu'elle disait, une personne responsable qui sait, être constant dans la poursuite de ses objectifs, ça m'explique alors pourquoi vous êtes retrouvé avec Caï, hein, parce que je peux vraiment dire la même chose de lui, hein, pour ce qui est de la prise de responsabilité, d'assumer les conséquences de ses choix et tout ça. Donc, vous êtes vraiment, une belle équipe, hein, de ce point de vue-là.
Merci.
Yeah. Bon, la question qui a été posée, c'est de savoir ce qui s'est passé entre le début et maintenant, comment on vous perçoit. Hein, bon, déjà au départ, je crois que c'est aussi le signe de l'amour maternel. Toutes les angoisses, les questionnements par rapport à l'avenir et tout ça, généralement, c'est comme Tanti dit, on essaye de ne pas trop les exprimer. Vis-à-vis du jeune adulte, si on peut vous appeler comme ça. Hein? Ouais. Donc, on essaie de pas les exprimer pour ne pas, comme elle disait, en rajouter encore. Ouais. Parce que vous êtes dans une décision de bifurquer vers l'entrepreneuriat dans votre vie, mais vous avez sans doute déjà vos propres questionnements.
À ça.
Et il faut pas venir en rajouter. Donc, moi, je crois que j'ai pris, l'attitude plutôt de dire, tu veux faire ça? Bon, OK, on va t'accompagner, on va essayer de voir comment on te soutient sur cette voie-là. Et je crois que j'avais déjà évoqué les atouts qui, dans la personnalité de Caï, à mon avis, peuvent expliquer qu'aujourd'hui, il a fait une trajectoire qui a tendance plutôt à rassurer lui-même, je crois, et son entourage. Ce que je voulais dire, c'est que, il y a quand même des indicateurs, comme Tantine a dit, par rapport au début où on voyait une personne qui était quand même à 80% dans le questionnement de savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est ce que je fais va porter des résultats et tout ça, etc. et tout. Hein? Et on voit maintenant que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'entrepreneur a atteint comme une vitesse de croisière, a fixé, ses racines, si je peux dire, et maintenant a grandi. Et on peut même commencer à parler de, à commencer maintenant à collecter les fruits de sa croissance.
Bon, Caï plus de fruits, mais on commence.
Le mot là, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais ici, on parle
d'un disant. Les plans aux as,
on ne commence pas. Hé, Caï, là, il a... Je suis pas, je suis
non, non, mais, je veux dire, de, pas seulement l'argent, mais de gagner en sérénité. En stabilité, de réduire tous ces questionnements du début, de pouvoir maintenant réfléchir à s'envisager même à une prise de responsabilité vis-à-vis des autres.
Mais oui, regarde, tu es riche.
Un des indicateurs, j'avais déjà parlé de la question de fonder la famille, etc. Mais aussi, Tantine l'a évoqué, le fait de recruter, le fait de recruter, d'avoir maintenant, des employés, c'est aussi un indicateur de croissance. Et il y a un retour de ça. Le retour de ça, c'est qu'il y a un plus grand, on reste responsable de son entreprise, mais il y a maintenant, comment dire, une forme de partage de responsabilité avec les membres de l'équipe. Hein, et ça, si vous avez pu réussir ça, c'est parce que vous avez aussi cette capacité de convaincre les gens qui vous rejoignent, pour qu'ils deviennent, en fait, parce qu'on peut avoir des équipes aussi désarticulées où chacun va dans sa direction.
Ouais.
Mais c'est cette capacité de leader, de convaincre les équipes sur les objectifs et aussi de dire que ça va être un win-win,
ouais.
que là où ils donnent, ils vont aussi avoir un retour, hein, avec toute cette dimension aussi des responsabilités sociales de l'entreprise. Que les gens sachent qu'ils ne sont pas seulement là pour du fric, mais qu'ils doivent aussi défendre l'image de leur entreprise et toutes sortes de choses. Et le patron, des bêtes trucs comme les cadeaux de se retrouver à Noël avec son équipe ou des choses comme ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'ailleurs que techniques ou financières, mais qui sont dans le comportement même de la personnalité de l'individu qui, je crois, vous prédisposez à devenir des entrepreneurs. Hein? Vous, vous l'avez découvert et vous étiez allé. Et nous, nous l'avons découvert en vous suivant, en suivant votre évolution. Donc, vraiment, c'est comme ça que je peux résumer.
Ce,
hein.
Ce qui est marrant dans ce que tu dis, maman, c'est que tu parles de prédisposition que vous avez découvert. Mais en même temps, les exemples que tu prends souvent sont liés à notre éducation qu'on a appris. Parce que quand...
Allô? Allô, Kai?
Par exemple, là, on est en train de faire l'équipe à Kinshasa et je leur expliquais les valeurs qu'on défend, etc. Et je leur disais que, par exemple, le mensonge aux clients, c'était interdit, c'est-à-dire les accumulations de petits mensonges qui mènent à rien et qui créent des embrouilles et qui, en fait, pourrissent une relation. Donc, en fait, sur la première discussion avec eux, je leur parle des valeurs de l'entreprise, mais qui sont forcément, on en a déjà parlé là, et l'entreprise est un reflet de qui est l'entrepreneur. Et qui est l'entrepreneur, c'est souvent lié à l'éducation. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je sais que en ce qui concerne, par exemple, avec maman, moi, j'ai jamais, par exemple, eu à dire « Ah, je vais là-bas alors qu'en fait, je vais ailleurs. »
Parce que,
elle a
jamais eu à mentir.
Tu dis exactement ce qu'on est. En fait, ça a été toujours plus simple de dire exactement en fait ce qu'il en est en fait. Et du coup, j'ai gardé ça. Et c'est ce qui m'aide en fait dans l'entreprise. C'est ce que j'explique aux équipes, c'est que dis ce qu'il en est en fait. Parce que le reste, ça te fait perdre énormément de temps, ça tue la confiance, etc. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les gens disent ah oui. Tu fédères les gens, etc. Mais c'est en se basant sur des principes qu'on a appris très jeune.
Mais si je puis me permettre d'ajouter, parce que c'est très important ce qu'il dit. Un exemple vraiment simple, la manière dont les parents traitent leurs domestiques, les personnes qui travaillent, qui aident à la maison, devant leurs enfants. Moi, j'ai toujours expliqué à mes enfants que ces personnes nous assistent, mais ces personnes ont leur propre dignité. Et c'est pas parce qu'elles ont moins, elles ont eu moins de chance que nous qu'il faut les traiter comme des moins que rien. Et donc, mes enfants ont à respecter.
Les gens, bien sûr.
Ça bug.
Je crois que là,
ces personnes-là, le chauffeur, d'ailleurs, étant aussi un certain soldat. Comme le chauffeur qui dit non, maintenant on rentre à la maison, il est tard. Donc, je crois que c'est vraiment très important ce respect de la personne humaine. Une fois qu'on est dans l'entreprise, c'est aussi un gage de la productivité, du rendement que les gens vont apporter à l'entreprise.
C'est
ça, je voulais juste.
Oui, mais ça. D'ailleurs, je me souviens, par exemple, moi elle disait jamais. La cuisinière, chaque fois quand il y avait des invités, elle nous disait voici la personne qui nous aide pour la cuisine, voici la personne qui nous aide pour le transport, voici la personne qui nous aide pour nettoyer. En fait, c'était toujours basé sur ce genre de mots, quoi.
Ouais, le travail.
Mais c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, aujourd'hui, quand on vous demande qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait, au fait, que devient votre fils? Qu'est-ce qui fait Moulay? Qu'est-ce que vous répondez?
Quand les gens me demandent.
Ouais, qu'est-ce que je fais? Comment tu exprimes ce que je, comment tu résumes ce que je fais? Parce que bon, c'est un peu galère, j'imagine.
Ouais, c'est vrai que je me pose rarement cette question, mais bon, à réfléchir là-dessus, les gens, quand les gens me demandent, je dis, mais c'est un entrepreneur maintenant. Il a créé sa boîte. Il est en train de faire en sorte que les produits africains mettent les produits africains en valeur. C'est ce qui m'a fait plus de plaisir. Parce que l'art, ça n'a jamais été son truc, mais tout d'un coup, ben bon, il est en train de. Je leur dis, les gens ne comprennent pas vraiment quand j'essaie de leur expliquer ce qu'il fait.
Mais...
ils ne comprennent pas vraiment. Je leur dis juste, il a une entreprise qui emploie beaucoup de personnes maintenant, fait travailler des gens partout, un peu en Afrique, pas seulement. Parce que les gens ne savent pas que vous avez ouais. des employés en dehors d'Abidjan.
Oui, bien sûr.
Où je dis, mais il emploie des gens un peu partout en Afrique. Il fait travailler ces gens-là. Et tous ces gens travaillent dans l'art. Il met en valeur l'art africain, il l'expose.
J'en fais gagner de l'argent.
Oui, il fait gagner de l'argent à tous ces gens, ces employés. c'est qui est très important
avec mes clients.
Et mes clients. Et la conjoncture en Afrique en ce moment, les petits artisans ont une chance de, quand leurs produits sont exposés et qu'ils gagnent de l'argent avec ça, sans bouger de chez eux. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, il fait tout ça en ligne. Donc, du coup, il fait bouger des choses que, comme ça, on ne se rend pas compte. Mais c'est énorme ce qu'il fait. Et le fait qu'il fait travailler des gens qui arrivent à vivre avec ça, avec ce qu'il gagne chez lui.
C'est ça qui est important.
Les employés qui gagnent beaucoup d'argent, ça, je ne savais pas tout ça avant. C'est quand je suis arrivé à Abidjan que j'ai compris tout ça. Et énormément. Quand il m'a dit le salaire de ses employés,
il faut le dire, maman. Voilà, sans donner leurs chiffres, il faut que ce soit dit, c'est important.
Voilà.
Les gens pensent que.
Je pense que c'est énorme. Des gens qui arrivent à vivre de ça et ils vivent avec leur famille. Je sais qu'il y a des gens ici à Abidjan qui ont pu prendre des appartements, qui ont. Vivre avec la famille dans ça et grâce au travail qu'il fait chez lui.
Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est le truc dont moi je suis le plus content personnellement.
Voilà, c'est très important ça, moi je crois. C'est très important le fait de faire travailler du monde, que les gens puissent vivre avec ce que lui, il travaille avec lui, et ce que lui, il leur offre, c'est le permet de vivre. C'est très important. Et aussi que les artisans arrivent à vendre des produits qu'ils gagnent de l'argent sur ça. Sans quitter chez eux. Et qu'ils arrivent aussi à vivre avec ça, en mettant l'art africain en valeur. J'essaie d'expliquer ça aux gens souvent. Ben, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui suivent. Mais...
ça va, tu n'es pas exactement quelqu'un de très sociable. Donc, comme si tu croisais beaucoup de gens qui
devaient... Voilà, ça aussi, c'est mon côté.
Non, mais devant lui, c'est sa grande fierté.
Bon, je sais que ce n'est pas une qualité, mais bon. Mais je suis comme ça, mais bon, je crois qu'il a pris ça un peu de moi, de ça aussi, Moulay. Il n'est pas très.
Sociable.
Mais pour en revenir à son travail, je trouve que vraiment, ce qu'il fait, quand je discute avec les gens, j'arrive à expliquer. Souvent, il y en a qui comprennent très bien ce qu'il fait, il y en a qui ne comprennent pas. Mais moi, moi-même, je suis fière de ce qu'il fait, vraiment. Très fière. De ce qu'il fait. Et Kayi aussi pareil, parce que quand j'ai connu Moulay, on parle de Kayi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait, il m'a expliqué aussi ce que tu fais. Mais finalement, vous avez pratiquement le même parcours. Vous avez le même parcours, et c'est que je comprends que vous vous entendiez très bien quand même, parce que si on regarde bien, vous avez beaucoup de points communs.
Merci, on voit plus les différences, mais effectivement.
Oui, il y a toujours des différences, sûr, mais vous avez beaucoup de points communs. Je peux vous dire que j'en suis très fière, vraiment. Pour dire que j'explique ce qu'il fait.
Vraiment, félicitations, hein, Moulay, franchement, parce que la fierté de ta maman est tout à fait Après tout ce que je viens d'entendre, en tout cas, ici, c'est vraiment l'occasion pour moi aussi de mieux te connaître, hein, parce que je connais déjà bien, c'est tout. Mais je dois avouer que je suis impressionnée. Et je sais, quoi qu'on dise de vous, je vais parler un peu de Caï maintenant, c'est que je crois que ce que nous percevons de votre réussite, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est juste la pointe de l'iceberg. En fait, en réalité, derrière cette réussite, je sais qu'il y a énormément de travail aussi, de mobilisation des équipes, etc. Peut-être que nous, on voit plus les résultats que le processus. Mais félicitations aussi pour tout ce travail d'arracher que vous faites pour y arriver, parce qu'il n'y a pas de cadeau, en fait. Il n'y a pas quelque chose qui vient en un clic. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, bon, par rapport à ce que je perçois de Caï aujourd'hui, je vois aussi un rôle, disons, modèle. Hein, un rôle modèle de... D'ailleurs, ça vaut pour Mona aussi. Un rôle modèle parce qu'il y a eu cette expansion disons, de l'activité hein, qui était partie, on va à la réalité, presque de rien. Hein, et qui, aujourd'hui, quand même, bon, il y a quand même, disons, une trentaine de personnes.
Comme quoi.
Une expansion aussi, comme disait Dantine, donc en dehors de sa base qui est à Abidjan aujourd'hui, il est en Afrique de l'Ouest, il est en Afrique centrale, etc. Et aussi, disons, la multiplicité de, disons, de partenariats, des sponsors, par exemple,
oui, le cahier surtout, ouais, ça
reste. Dans la mobilisation des acteurs du numérique en Afrique, avec des événements comme des événements annuels, mais aussi dans le portefeuille de clients. Hein, parce qu'on voit quand même des clients de renom. Maintenant, je ne vais pas les citer parce que peut-être que c'est Moulin, pas...
Il faut, parce que Caï ne le fait pas. Il faut les citer. Caï ne les fait pas. Il faut citer. Tata, depuis, je lui dis de citer. Il ne cite pas. Il les cite.
Pas de problème avec ça.
Non, ouais, des clients de renom quand même, de grands clients internationaux et tout ça, qui ont placé la confiance. Hein, c'est que tout ça, ce sont des indices. Du sérieux des entreprises qu'ils ont mis en place, ils assurent ce qu'on appelle le delivery. Hein?
Exactement. C'est ça même.
Voilà. Et l'autre élément aussi, pour moi, de critère de ce que je considère désormais comme une réussite, c'est, disons, la mobilisation disons, des jeunes, c'est-à-dire qu'au-delà des questions, disons, de rendement, de profit, d'expansion de marché, il y a quand même, disons, cette, je veux dire, une forme d'empathie, une forme de, comment dire, pour moi, pour nous qui savons que le marché de l'emploi aujourd'hui pour les jeunes, il y a tellement peu d'opportunités. Les gens, ils ont des diplômes en poche, mais ils n'ont pas d'opportunité de trouver un emploi salarié, en tout cas de moins en moins dans la fonction publique, dans des entreprises qui ont pignon sur rue. Donc, cette notion d'auto-emploi, d'entrepreneuriat et tout ça, d'indépendance, c'est extrêmement important. C'est que eux font, à travers leur podcast, par exemple, d'essayer de mobiliser les jeunes pour dire n'attendez pas postuler à gauche et à droite pendant des années, voire envoyer votre CV et tout ça. Essayez de voir ce que vous pouvez faire avec les ressources, les qualités que vous avez, hein, pour essayer de mobiliser, hein, disons, ces ressources-là et créer votre propre entreprise et éventuellement même devenir un employeur pour les autres. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est un défi de survie, c'est un défi d'avenir pour l'Afrique où il y a tous ces millions de jeunes qui ont tout dans la tête, rien dans la poche, et il faut vraiment leur donner des ressources pour pouvoir se faire des projets, pour s'en sortir. Hein? Ça, je trouve que c'est quelque chose que... je trouve un accomplissement aussi, parce que la question qui a été posée, qu'est-ce que nous pensons qu'ils ont accompli, disons, au-delà de leurs propres entreprises. Moi, je trouve que j'admire cette générosité, parce que c'est comme ça que je l'aperçois, de partager leur expérience à travers ce podcast, de faire venir des gens qui témoignent comment eux, ils ont commencé, quels sont les problèmes qu'ils ont eu à surmonter pour pouvoir, être là où ils sont. C'est très important que les gens sachent aussi que ce n'est pas une promenade de... C'est une très, très, très belle réussite, mais il faut que les gens sachent que rien n'est acquis définitivement. Et donc, je voulais terminer par ce dernier point que j'admire chez mon fils Gaï. Je lui dis en face, parce que je crois qu'il le mérite. Je pense que mon père est dans la même logique de considérer jamais comme rien comme définitivement acquis. Et que de se dire que les efforts qui ont permis d'arriver là doivent persister et même être amplifiés pour faire mieux, pour aller plus loin, pour votre bonheur à vous d'abord, des familles que vous allez former, des familles qui sont déjà là, dans le cas de Caïn, leur bonheur, et puis bonheur à nous aussi qui vous accompagnons. Voilà.
Je pense qu'on a le mot de la fin, Caïn. La date d'avis de donner, rien n'est acquis, elle a dit. Les gens n'ont qu'à se donner.
Mais après, elle pourrait donner un mot pour nous décrire. Tu voulais dire quelque chose, tu disais?
Non, pas.
Ah, d'accord, ok. Ouais. Mais moi, je voulais juste, avant de conclure, il y a peut-être vous poser une question par rapport au fait que, on apparaît de plus en plus dans les médias, parfois dans des classements, ce genre de choses. Et comment est-ce que vous vivez ça? Parce que peut-être parfois aussi des gens de votre entourage qui disent « Ah, j'ai vu ton fils dans ci, dans ça. » Ou alors, vous voyez tel article. « Ah, il est dans Jeune Afrique. Ah, il est dans Le Monde. Ah, etc. etc. » Donc, parce que du coup, juste savoir en fait, est-ce que ça fait peut-être bizarre, même si on n'est pas footballeur, mais il y a ce côté un peu médiatique.
Non, ouais, ben je pense que tu as bien pu répondre en premier parce que moi, maman va, elle a eu, je pense, des bonnes et de mauvaises expériences de cet aspect-là. On parle de moi, je pense qu'on a aussi d'en avoir, surtout vous, c'est particulier, je pense.
Je veux dire que c'est vraiment une grande source de fierté, mais bon, c'est vrai. Mais avant tout, je pense que c'est aussi un levier de promotion des activités que vous menez de votre. Cette reconnaissance, on va dire, qui est médiatisée, elle vient quand même d'institutions qui ont pignon sur rue pour ce qui est d'estimer, d'évaluer les personnalités.
C'est la version politique. Hier, je lui ai montré un classement. Je lui ai montré un classement où j'étais à côté de Drogba là.
Ah bon? C'est ça qu'on veut entendre.
Elle m'a dit, serre-moi la pince là.
Serre-moi la pince, mon petit, tu as percé. Mon petit,
il y a quelqu'un.
Tu es quelqu'un, exactement.
Ouais, c'était vraiment spectaculaire pour moi, à côté de Denise Epoté, de Drogba, et quoi. Et vous n'étiez, je crois, qu'une vingtaine maximum.
C'est quelqu'un. Monsieur Kaya.
Il y a aussi des classements des Nations Unies pour les jeunes les plus entreprenants du continent. Il y a toutes sortes de classements. Il y a même ce prix que vous étiez allé avec une petite à moi que j'aime beaucoup aussi, Fabiola.
Francophonie, oui,
c'est ça. Voilà, les meilleurs, disons, les jeunes primés par la francophonie, les Nations Unies et tout ça, etc. Donc, je me dis que ça, c'est un booster. Ça, c'est vraiment un booster d'énergie en se disant, voilà, ce que j'ai fait est reconnu, Et en plus de ça, bon, il ne faut pas se le cacher, ça fait quand même aussi une publicité. Hein,
je veux non, mais dire, ça moi, fait quand même. Je voulais parler de les, ça les, parce que.
On en est très, très fiers. Quand ça arrive, on en parle dans notre entourage. Ah, tiens, est-ce que tu as vu le classement où mon fils est là et tout ça, etc. Et tout. Donc, on en est vraiment fiers. Et je crois que vous aussi, ça vous force de mettre la barre un peu plus haute pour quand même rester dans ce type de classement.
Mais bon, heureusement que ça, qu'il y a cet aspect-là de fierté des proches, parce que c'est vrai que nous, de notre côté, le problème, c'est qu'on ne s'attarde pas trop sur ce genre de choses, parce que bon, il y a beaucoup de classements aussi qui veulent rien dire, ou alors tu peux être dans le classement et l'année d'après, ton entreprise tombe. En fait, oui. ça ne te garantit pas vraiment.
Comme Tata a dit, rien n'est acquis.
Il y a une histoire du côté de Antille, là, puisque tu disais que c'est il y a eu des côtés positifs et négatifs à cet aspect-là. Est-ce que c'est par rapport au classement où on voit les montants que tes investisseurs te donnent?
Non. C'est pas cela.
En fait, ça, comme l'a dit ta mère, c'est toujours une source de fierté. Quand on vous voit, on voit le nom de son fils parmi le classement. Moi, là, je l'ai vu souvent qu'il est classé dans le classement des jeunes entrepreneurs africains forts pour faire ça. Et quand je vois ça à chaque fois, ça lui fait ni chaud ni froid.
Ouais, je crois que j'ai jamais envoyé à maman un article.
Les gens m'envoient ça et moi, j'enregistre ça. J'ai la photo de tout le classement. Ah oui. J'aime ça. Je veux dire, ça me rend fier quand même, même si, même si pour lui, c'est pas grand chose. Pour moi, c'est une fierté qu'il soit cité parmi des gens qui bossent comme ça. Parce que quelque part, c'est le travail qui fait qu'on parle de toi comme ça.
C'est vrai.
Parce que tu as fait quelque chose et c'est le fruit de ça qui fait que tu es là. Donc, c'est une fierté pour moi. Et même il y a 2 ou 3 jours, ma soeur m'a appelé un matin pour me dire que...
Ah oui, Denise Ekoute, avec RFI.
J'ai fait une interview de Moulay sur RFI. Moi, je n'ai même pas... J'ai pas
entendu. Ouais, je ne t'ai même pas envoyé en plus, c'est vrai.
Oui, elle m'a dit, je l'ai même envoyé un message.
Ouais, elle m'a envoyé un message.
Je n'étais pas au courant. Donc, les gens me parlent souvent des interviews qu'ils donnent. Même mes soeurs sont fiers quand elles entendent ça. Ouais. La preuve, elle m'a appelé et puis elle a envoyé un message à mon aïe.
Tu viens de popoter après et tout.
Voilà. C'est de ce côté. De toute façon, ça montre qu'ils ont bossé. C'est pour ça qu'ils sont là. Même si pour vous, demain, ça, comme dit Kayi, votre boîte peut fermer, tout comme ça, mais il y a la trace qui reste. Il y a quelque chose que vous avez accompli, qui sera toujours là, personne ne peut l'enlever. Vous pouvez, ça peut marcher, mais ce que vous avez fait, ça restera. Ça restera toujours.
Les médias, c'est quelque chose.
Oui, pour ça, c'est quelque chose qui est plus qu'on applaudit. Et moi, j'adore ça. Et, le côté négatif, ça, ça n'a rien à voir avec votre boulot.
C'est plus moi, ma personnalité.
Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est Abidjan, Kayi doit être au courant de toute façon. Quand on parle de lui par rapport à sa femme,
sa personnalité.
Ça me plaît moins parce que ça n'a rien à voir avec lui. C'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est le côté, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais s'il parle du côté qui est négatif, c'est de ce côté-là. Ça n'a rien à voir avec son boulot.
Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur les médias, ce qui est marrant, c'est que par exemple, je sais que moi.
Allô? Ça coupe. Allô, on t'entend pas, Kayi.
La fois où il a pris
au sérieux. Kayi, ça a coupé.
Quand quelqu'un lui a dit qu'il m'a vu sur. Ouais, tu m'entends?
Oui.
Désolé, ça a coupé. On n'a pas entendu.
Maintenant, tu m'entends?
Voilà, c'est bon.
OK. Non, je disais que je faisais la blague parce que mon père, la fois où il a commencé à prendre au sérieux cette histoire, donc plusieurs années après le début, c'est quand quelqu'un lui a dit qu'il m'avait vu sur Canal+.
Ah, mais oui, la fameuse émission Canal. Eh oui, mais c'est vrai.
Oui, donc les médias ont ce truc-là. Mais du coup, je pense qu'on est arrivé quand même, on a quand même fait le tour de ce qu'on voulait aborder. On a appris beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens nous disent en commentaire si on a vraiment fait le tout. Qu'est-ce que ça leur apprend? Parce que c'est eux qui ont insisté, parce que dans nos podcasts, on parle souvent, ma mère, ma sœur, etc. Donc, ils ont dit, ce serait bien qu'un jour, vous les invitiez. Donc, nous, au début, on ne comprenait pas trop, mais c'est vrai que même nous, on apprend des choses, surtout sur les angoisses. Parce que même quand les angoisses des gens sont cachées, plus tu grandis dans la vie, plus tu les décernes. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je me suis lancé, je sais que ma mère a dit « Ah oui, très bien, oui, etc. » Mais après, là où j'ai remarqué qu'il y avait de l'angoisse, c'est que chaque fois que je lui disais un contrat qu'on signait, la façon dont elle était contente...
Elle était très contente.
C'est-à-dire que la joie était devant tout. Ou alors, quand je lui disais « je suis en appel d'offres avec un tel », elle dit « alors, ça avance comment ?» etc. Et tout.
Elle se tient au courant. Ah oui.
C'est sûr que je vais être au courant. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite surprise. Ça, c'est la note vocale qu'elle m'a envoyée. Elle ne sait pas que je vais faire ça. Il y a quelques jours, je lui ai envoyé un charte de progression de chiffre d'affaires.
Donc, hop là, il faut envoyer, on veut écouter.
Le thème là, c'est fort, hein? Petit poisson devenu grand. C'est pas possible, ça. Ni de chiffre d'affaires.
Bon, allez!
On va parler de la marge aussi.
En euros, hein?
Elle a dit en euros.
Bravo, félicitations, hein, mon fils. Hein. Que de chemin parcouru depuis 2013. Quand je pense comment je tremblais comme une feuille, hein, quand tu as quitté Agile Bayer. Hein. Eh ben, hein. Paris tenu. Hein. Je sais que tout ça, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, de prise de risque, et encore du boulot et tout ça. Hein, donc voilà, je te souhaite vraiment bon vent, je te souhaite bon vent à Totem, à toute l'équipe, hein, parce que c'est aussi l'équipe qui est à la base de ces résultats-là. Hein, et vraiment, bon vent, que tout aille mieux. Et je sais que comme Tricia est là-bas aussi maintenant, à tes côtés pour t'appuyer.
Bon, là, c'est l'autre.
J'ai encore une autre.
Allez!
Waouh, c'est bien.
Attendez.
J'ai mis les love money que j'avais mis au départ.
Attendez.
Une autre équipe. Hein.
Écoutez.
Bon, voilà. Si ça continue comme ça, je vais réclamer mes love money que j'avais mis au départ. Hein.
Allez! C'est ça, ne pas perdre le nord.
Écoute.
Hein, love money pour m'acheter mon groupe électrogène.
Caï, faut faire ça toi aussi. Acheter le groupe électrogène à Tata. Là maintenant, dans les commentaires, les gens n'ont qu'à venir m'appuyer pour dire achète le groupe électrogène à Tata.
C'est compliqué. Il faut
bravo, Caï.
Bravo, mec.
Non, mais... pour conclure, on va dire un mot chacune pour décrire votre fils.
Et... ouais, il faut choisir un mot.
Là, je le qualifie de généreux.
Et... sérieux? Ok. Ouais,
il est généreux. Il est généreux, il est avec moi particulièrement. Et puis, il partage beaucoup de choses. Il partage son savoir. Il partage ses connaissances.
J'essaye en tout cas.
Oui, je trouve que c'est très généreux, ce que vous faites d'ailleurs. Votre podcast, là, c'est généreux. Vous aidez des jeunes à s'en sortir. En fait, vous leur guidez ce que vous n'avez pas eu, mais vous êtes en train de faire en sorte qu'il y en a plein qui arrivent à faire quelque chose de leur vie. Et je trouve que mon fils est très généreux. Vraiment.
Gentiment.
Voilà.
Non,
je le fais comme ça.
Très bien. Amen.
Mais je ne rentre pas dans ce qu'il fait pour moi, non. Ça, c'est... mais il est généreux, vraiment.
Oui. Ça, Davina, à toi, du coup.
Donc, j'avais déjà dit, c'est la force tranquille, quoi. Qui pense, je veux dire, avec ce paradoxe, hein, la prise de risque est là, associée avec beaucoup de prudence, hein, Caï. Et donc, tout ça, c'est dans la trajectoire d'une vision hein, que je félicite, parce que franchement, sans vision, on ne peut même pas avoir de
c'est vrai.
Trajectoire, parce que ce serait pour aller vers quelque chose d'objectif. Donc, vraiment, cette force tranquille a beaucoup frappé cette constante objectif, hein, et Jean Moudaï aussi, cette recherche quand même de l'équilibre entre vos activités professionnelles et votre vie privée, c'est vraiment, ça va être mon dernier mot, parce que l'argent ne doit pas être une finalité. On célébrait tout à l'heure le chiffre d'affaires. Ça doit être un moyen de rendre votre vie meilleure, qualitativement. Hein. Et donc, à partir de là, moi, quand je vois, par exemple, Gaï se promener avec mon petit-fils qui est mis sur ses épaules au parc, hein, avec sa maman et tout ça, prendre du temps, essayer de prendre du bon temps aussi parfois dans le restaurant et pas que pour des dîners d'affaires, hein, essayez de garder des contacts avec vos fratries, vos amis, hein, famille et tout ça, le week-end, c'est pas toujours évident, parce que je sais, quand on est dans ce créneau-là, on se retrouve, comme maman disait, comme il n'y a pas parfois même un bureau matériel, le bureau est virtuel, le bureau c'est l'ordinateur, ne tombez pas dans le piège du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que sinon vous aurez alors travaillé bien. Essayez d'en profiter par une vie meilleure avec vous, partager avec vos proches. Il paraît que tu es généreux, c'est pas tombé dans l'oreille du
tout. Oui, d'une sourde. Il n'y a pas de souci. Caillou aussi est très généreux, c'est juste que ça se voit moins que moi, mais Caillou aussi, hein, bon gars.
La qualité de vie pour vous-même, pour vos employés, pour vos familles et tout ça.
Bon conseil. En tout cas, merci beaucoup.
Donc, oui, c'était pas facile apparemment. Tu vois, tu as survécu, tu n'as pas souffert. C'était pas
notre plus enfer. Ouais, parce qu'il faut dire que la négociation a été rude pour les convaincre.
Et là, point de vue qualité de vie, il n'a pas été à la meilleure école, parce que les fonctionnaires des Nations Unies, ça turbule pratiquement.
Fort, ouais.
Je ne vais pas donner le bon exemple, mais il faut qu'il fasse mieux, quoi. Et
on va continuer. Bon, donc finalement, le stress du début par rapport au stress.
Non, mais ça s'est bien passé.
Non, mais c'est.
Mais non, mais parce qu'il a fallu vous convaincre. Non, je ne veux pas. Ah, on va parler de quoi, etc.
Tout est dur.
Mais c'est parce qu'en face de nous, on a des. Vous êtes très sympas, très communicatifs.
Bientôt, elles vont faire leur podcast sans nous.
Déjà, sur le déco.
C'était vraiment sympa, vraiment.
En tout cas, on a hâte d'avoir les retours de la communauté. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la parentalité? On a vraiment essayé de couvrir un peu tout, de l'enfance au day-to-day, à l'équilibre. Vie perso, c'était vraiment une conversation super riche. Et le podcast aussi sert à ça, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait mis en place s'il n'y avait pas le podcast. Donc, c'est une conversation. Et puis, voilà, moi, je suis vraiment content qu'on ait pu faire ça.
Et on espère que les gens pourront partager, du coup, comme ça, à leurs parents. Parce que
tenez-nous au courant.
Ouais, voilà. Dans les commentaires, partagez à vos parents, ceux qui sont en train d'entreprendre ou ceux qui. On espère, moi, j'espère aussi que, comme maman a dit, que ça va créer des discussions. Peut-être que ce que nous, on a dit là, ça va amener des entrepreneurs à parler avec leurs parents, quelle que soit leur situation, s'ils commencent, s'ils veulent se lancer, s'ils hésitent, etc. Et si ça peut aider, on est content. Donc, vraiment, à très vite.
Merci à tous.
Les mamans s'organisent pour rester en contact. Hein.
Bien sûr. Bien. Allez, ciao, ciao. Au revoir.
Salut à tous!
Bienvenue dans le podcast Entrepreneur State of Africa.
Le podcast qui dit tout haut
ce que les entrepreneurs pensent
tout bas.
Tout bas. Et dans le registre des choses qu'on pense tout bas, depuis 3 ans, Caillou a conçu un concept unique qui va vous présenter.
Les 7 péchés capitaux.
Ouh!
7 épisodes totalement spéciaux. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, le propre de l'entrepreneur, c'est d'innover. C'est ce qu'on a voulu faire pour ces 7 épisodes. L'idée, c'est que dans le podcast, on vous partage beaucoup nos expériences, mais là, on va aller plus loin en essayant de partager avec vous ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête, mais également dans le cœur. Et on espère vraiment que ce qu'on va partager avec vous va vous permettre de connecter avec aussi des sensations que parfois vous n'arrivez pas à expliquer. On a vraiment hâte de lire vos commentaires et on espère surtout que vous allez prendre autant de plaisir à regarder cette série que nous on a pris à tourner
et que vous vous abonnerez pour nous, même pas forcément pour nous remercier uniquement, mais si vous pensez que vous voulez en voir plus, que ce qu'on évoque sont des choses qui doivent être partagées, parce que la culture entrepreneuriale qu'on veut partager n'est pas que pour les entrepreneurs, elle est pour tous, abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez les moments et surtout commentez et dites-nous ce que vous voulez voir de plus comme thème, comme sujet.
Entrepreneur State of Africa hors série spéciale été 2023.
C'est parti.
C'est parti.